VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Média d'accord, 13h en Jamina. Bienvenue à notre journal. L'attaque américaine contre la base aérienne syrienne de Sheirat. Réaction unanime d'approbation des alliés des États-Unis à ces représailles contre le régime du président syrien Bachar al-Assad. L'Union européenne entend travailler avec les États-Unis afin de mettre fin aux brutalités en Syrie, a indiqué ce vendredi le président du Conseil européen Donald Tusk après les frappes américaines. La Grande-Bretagne aussi appuie pleinement l'initiative militaire américaine et au proche au Moyen-Orient, Israël a apporté son soutien total aujourd'hui à ses frappes. Un message fort que devraient entendre aussi l'Iran et la Corée du Nord, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'Arabie Saoudite aussi annonce qu'elle soutient totalement les frappes américaines sur des objectifs militaires en Syrie et salue la décision courageuse du président Donald Trump dans sa réponse à l'utilisation présumée d'armes chimiques par le régime syrien contre des civils. En Extrême-Orient, le Japon dit appuyer la détermination des États-Unis contre la prolifération d'armes chimiques. Le Premier ministre Shinzo Abe jugeant que l'action américaine avait eu pour but d'éviter une aggravation de la situation. Mais les frappes américaines en Syrie n'ont pas eu que des partisans. La présidence syrienne qualifie ces frappes contre la base militaire aérienne d'actes irresponsables et idiots qui reflètent l'aveuglement des États-Unis sur les plans politiques et militaires. Le président russe Vladimir Poutine estime que l'action militaire contre la base constitue une infraction au droit international et qu'elle pénalise gravement les relations entre les États-Unis et la Russie. L'Iran a également condamné les frappes. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit que de telles mesures vont renforcer le terrorisme en Syrie et vont compliquer la situation non seulement en Syrie, mais dans toute la région. Ici même aux États-Unis, pour ce qui est des répercussions intérieures du raid américain contre les forces armées syriennes, Timothée Donangmaï a contacté le professeur Edgar Colley de l'Institut d'études internationales de Monterrey, en Californie.
Sur le plan domestique, je crois que ça pourrait être quand même de quelques bons points qu'il gagnerait. Mais nous voyons ici quand même un revirement de position parce que Donald Trump a été clair. Il a déclaré à tous ceux qui voulaient l'entendre que le problème syrien n'était pas un problème américain. Mais des frappes par missile sans une intervention directe de l'armée sur le sol syrien quand même pourrait créer une situation où il serait vu comme un leader qui a pris une décision et qui a suivi de près ce qui s'y passe et qu'il est décidé, comment dire, il est prêt à agir, ne serait-ce que pour sauver des vies humaines, surtout au niveau des civils. Sur le plan domestique, je crois que Trump pourrait gagner quelques points parce que si on voit les photos de ce qui se passe en Syrie, les gens sont quand même touchés et très émus, donc une réaction de ce genre pourrait être perçue comme la chose à faire.
Le président pourrait donc marquer quelques précieux points dans un contexte où il a eu beaucoup de difficultés avec sa réforme de l'assurance maladie et aussi toutes ces enquêtes concernant l'ingérence de la Russie, l'ingérence présumée de la Russie dans les élections passées.
Oui, fondamentalement, parce que si vous voyez le taux de popularité de Donald Trump, il est au plus bas. Et donc, ces échecs dont vous faites cas ne jouent pas en sa faveur. Et donc, il lui faut quelque chose très rapidement. Et je crois que la situation en Syrie, même si c'est une action humanitaire, lui donne quand même une certaine crédibilité en ce sens qu'il est un leader qui est prêt à défendre les déshérités, donc dans ce contexte, les civils syriens. Donc ce serait d'excellents points pour lui à un moment où il en a vraiment besoin.
Et quelle incidence de ces frappes sur l'enquête ici aux États-Unis sur l'implication présumée de la Russie dans les dernières élections américaines?
Je crois que ça ne va pas faire oublier ce qui se passe au niveau national. Parce que, comme vous l'avez probablement vu, le chef de ce comité au niveau du Sénat, qui était responsable des enquêtes sur ce que la Russie avait pu faire pendant les élections, M. Devin Nunes, le représentant de Californie, il s'est écarté du leadership. Donc, ces frappes ne vont pas occulter toutes ces enquêtes. Et donc, ça lui permet tout simplement, pendant quelques heures, de changer un peu la direction du discours national.
Professeur Edgar Colley de l'Institut d'études internationales de Monterrey en Californie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
États-Unis toujours, le président américain Donald Trump a promis jeudi une très très bonne relation à long terme à son homologue chinois Xi Jinping lors d'un dîner dans sa somptueuse résidence en Floride qui a marqué le début d'une première rencontre très attendue entre les deux leaders. Donald Trump a par ailleurs accepté une invitation présentée par le président chinois à venir en visite officielle en Chine, rapporte l'agence de presse Chine Nouvelle, citant un responsable ce vendredi. Et puis ici à Washington, la majorité républicaine du Sénat américain a modifié hier de force le règlement de l'institution afin d'imposer la confirmation du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Les républicains ont fait passer la majorité requise pour approuver un juge à la Cour suprême de 60 sénateurs sur 100 à la majorité simple de 51. La procédure est maintenant alignée sur la confirmation des juges d'instance inférieure et des responsables de l'exécutif. La règle des 60 voix est le garde-fou de notre démocratie et contre l'extrémisme judiciaire, avait plaidé en vain Chuck Schumer, chef de file des démocrates. Tous les démocrates ont voté contre, mais le changement s'est produit lors d'une série de votes hier matin au Sénat face à l'obstruction de la minorité démocrate. Le président Donald Trump avait vivement souhaité cette modification pour que Neil Gorsuch, nommé en janvier, soit confirmé. Son arrivée refera basculer la Cour suprême à droite avec 5 juges conservateurs et 4 progressistes. Neil Gorsuch sera confirmé lors d'un vote final ce vendredi et il est nommé à vie.
Afrique, si vous êtes un réfugié en Afrique, l'Ouganda pourrait être votre meilleur pays d'accueil. Les nouveaux venus y ont une liberté de mouvement et les Ougandais, pour la plupart, les accueillent à bras ouverts. C'est un exemple unique sur le continent. Un reportage de Jill Craig dans le nord de l'Ouganda, rendu par Lionel Gaïma.
Personne ne choisit de devenir réfugié, mais beaucoup sont forcés de le devenir. Ils fuient la violence dans leur pays d'origine, subissent de restrictions dans leur pays d'accueil et souvent dépendent des autres pour manger ou se soigner. L'Ouganda accueille plus d'un million de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le pays essaie d'atténuer leur souffrance avec ce qu'il présente comme une politique progressiste vis-à-vis des réfugiés. Solomon Osakan, un responsable du bureau du premier ministre ougandais, travaille avec les agences humanitaires onusiennes pour coordonner les actions en direction des réfugiés. Selon lui, l'approche ougandaise s'inspire d'un concept panafricain d'aider les Africains en difficulté, particulièrement les voisins venus du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo ou du Burundi. Je pense que cette politique émane de nos leaders. Dans une vie antérieure, beaucoup d'entre eux ont été déplacés ou réfugiés. Ils avaient trouvé asile dans des pays voisins et parfois sont partis jusqu'en Europe. Cela a changé leur perception, les amenant à comprendre que le réfugié a besoin de soutien pour survivre et que l'hostilité ne fait qu'empirer les choses. L'Ouganda accueille les réfugiés non pas dans les camps, mais dans des centres érigés sur des terres données par les communautés locales. Chaque réfugié reçoit un lopin de 250 mètres carrés pour bâtir un abri et cultiver. Il est libre d'aller et venir, a une autorisation de travail et peut même lancer son propre business. Joyce Alua est venue du Soudan du Sud. C'est bien, ici en Ouganda on se sent bien, il n'y a pas de combat comme au Soudan du Sud et il y a d'autres bonnes choses. Mais tout le monde n'est pas aussi satisfait. Près de la ferme Ivimpi récemment ouverte, certains autochtones comme Charles Assema se plaignent de ces étrangers. La mauvaise chose ici, c'est le manque de travail. Ceux qui sont là ne nous donnent pas du travail. Malgré sa frustration, Charles Assema est quand même heureux que son pays accueille les réfugiés par amour de Dieu. Pour le gouvernement ougandais et les Nations Unies, beaucoup d'emplois demandent des compétences qu'on ne trouve pas toujours chez les autochtones. Cependant, plusieurs réfugiés se plaignent de pénuries alimentaires. Les Nations Unies citent un manque de fonds. L'année dernière, les rations alimentaires ont été réduites de moitié pour les réfugiés arrivés avant juillet 2015, à l'exception des plus vulnérables. Les Nations Unies avaient lancé un appel en vue d'obtenir 500 millions de dollars pour leurs opérations en Ouganda, mais à la mi-mars, l'ONU n'a reçu que 35 millions de dollars, c'est-à-dire même pas le dixième de fonds nécessaires.
Et vous terminez en Gambie, le Parti démocratique unifié, UDP, principale formation d'opposition à l'ex-président gambien Yahya Jammeh, a remporté la majorité absolue aux élections législatives de jeudi. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.